Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, il y a un lien direct entre le sujet de l'évangile de dimanche dernier et le sujet de l'évangile d'aujourd'hui. Je vais expliquer que dimanche dernier, c'était la fête de la Sainte Famille. Et donc, Dieu nous donnait le modèle de la famille. Et bien, dimanche suivant, aujourd'hui, donc le deuxième dimanche après l'Épiphanie, l'Église nous donne la copie du modèle. La tradition nous dit que c'est en ce jour, à Cana en Galilée, le jour du premier miracle de notre Seigneur Jésus-Christ, que notre Seigneur a élevé, a sacramentalisé le sacrement du mariage. Et qu'il existait déjà le mariage avant. Le mariage existait depuis le début des temps, mais c'était des mariages qu'on appelle un mariage naturel. Ce n'est pas un sacrement. Et bien, Dieu a institué le sacrement de mariage aujourd'hui par sa présence à cette fête de mariage de Galilée. Et il faut aujourd'hui plus que jamais rappeler certaines grandes vérités sur le mariage. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez très bien, dans le monde moderne, ils savent, les ennemis de l'Église catholique, c'est pas ça qui manque, savent que la famille est la cellule de base de la société. Et que si on veut détruire complètement une société, il faut d'abord toucher la famille. Et pour toucher la famille, il faut toucher au principe d'autorité du père, au principe d'autorité de la mère. Et donc, on voit très bien comment les ennemis de l'Église, en France c'est très net, font tout pour saper l'existence même de la famille. Et malheureusement, beaucoup des idées de destruction de la famille sont rentrées petit à petit dans les cervelles de certains catholiques. On entend parfois des réactions de la part de catholiques qui croient connaître le bar catéchisme et qui en fait l'ont un peu oublié. Donc, je voudrais insister d'abord sur quelques points. On entend souvent des gens nous dire, monsieur l'abbé, pour des catholiques, dans les préparations au mariage, j'entends les gens nous dire, monsieur l'abbé, j'ai été marié plusieurs fois auparavant, avant de me marier catholiquement, j'étais marié simplement au civil, et donc tous ces mariages sont invalides. Faites attention, il ne faut pas oublier, c'est un premier point sur lequel je voudrais insister, qu'un mariage naturel entre deux païens est valide. Qu'est-ce que c'est qu'un mariage naturel ? Un mariage naturel, c'est un mariage entre deux personnes qui ne sont pas obligées par les règles canoniques du mariage. Les règles canoniques du mariage, quelles sont-elles? Deux catholiques doivent se marier devant le témoin officiel de l'Église, qui est le prêtre. En principe, le curé d'épouse, la future épouse. Mais des gens qui ne sont pas baptisés ne sont pas tenus par ces règles. Donc si deux personnes non catholiques se marient devant monsieur le maire, et qu'ils ont l'intention de garder les conditions naturelles du mariage, c'est-à-dire l'unité, l'indissolubilité, l'acceptation des enfants, le mariage est valide. On peut même aller plus loin que ça. Prenez le cas de deux protestants qui se marient. En principe, les mariages protestants sont tous invalides parce que les protestants acceptent tous le divorce. Acceptant le divorce, il n'y a pas de contrat naturel valide devant Dieu. Cependant, si deux protestants se marient, mais dans l'intention à tous les deux, c'est pareil devant ministre protestant, laïque donc. Si leur intention est claire, nous nous marions devant le ministre protestant, mais nous tenons absolument à nous marier avec les conditions d'indissolubilité. Et nous nous marions pour la vie. Nous acceptons les enfants que Dieu nous enverra, et il y aura l'unité dans la famille, c'est-à-dire on n'accepte pas une tierce personne, une deuxième femme ou une deuxième épouse. Ce mariage est valide. À tel point que lorsque de personnes qui sont liées par un mariage naturel se convertissent, ils n'ont pas besoin de recevoir le sacrement de mariage. Pourquoi ? Parce que par leur baptême, leur mariage naturel va automatiquement, ipso facto, être élevé au niveau du sacrement. On a souvent des problèmes avec des gens qui sont pas catholiques, qui deviennent catholiques, qui se marient, qui sont baptisés, et qui viennent voir le prêtre pour le baptême, ça me semble, maintenant qu'on est baptisé, on devrait être marié religieusement. Mais s'ils étaient déjà mariés civilement auparavant, le mariage civil, ipso facto, est devenu un sacrement à cause du baptême. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on appelle les enquêtes matrimoniales sur des gens qu'on ne connaît pas. pour bien vérifier qu'il n'y a pas de problème comme ça. Je voulais préparer un mariage à Nantes cette semaine. Je vais bien vérifier ça, justement, ces gens que je connais mal. Ça, c'est le premier point qui me semble extrêmement important à préciser. Il y a un deuxième point aussi qui est très important, ça c'est le dogme de foi. L'Église enseigne que tout mariage entre deux chrétiens, cette fois-ci, donc entre deux personnes baptisées, qui est ratifié et consommé, ne peut être annulé par aucune autorité au ciel et sur la terre. Et lorsque deux personnes baptisées, mariées légitimement devant Dieu, avec un mariage consommé physiquement, eh bien, Dieu lui-même ne peut pas annuler ce mariage. Alors quand on voit aujourd'hui des personnes qui prétendent, après un mariage consommé, ratifié entre deux chrétiens, qui prétendent avoir reçu une annulation, soi-disant, de mariage, c'est quelque chose d'ahurissant. Parce que justement, dans son essence même, le sacrement de mariage est absolument indissoluble. Et donc, il faut protéger ces choses-là. Vous voyez, c'est important. On reçoit souvent des coups de téléphone, ben, de gens qui nous disent que leur mariage, malheureusement, n'a pas tenu, tient pas, ils sont partis, chacun de son côté, à cause d'infidélité ou d'autres choses. Et puis, ils tournent autour du pot. On sent très bien qu'ils voudraient qu'on s'occupe d'eux, qu'ils veulent se remarier. Alors, on dit, attention, vous êtes déjà mariés. Ah mais j'étais marié dans l'église moderne. Attention, même dans l'église moderne, dans l'église de Vatican II, on retombe sur le premier cas que je vous ai expliqué. Si deux personnes qui se marient dans l'église du Vatican II ont l'intention de se marier avec l'acceptation des enfants, l'indissolubilité et l'unité, on se retrouve aussi dans un cas de mariage valide. Et donc il faut faire attention. Parce que malheureusement, ces idées rentrent de plus en plus dans les âmes. Et c'est l'idée même de la sainteté du mariage qui va disparaître complètement. Un troisième point sur lequel je voudrais insister, c'est un point important aussi, c'est que lorsque vous vous mariez, le bon Dieu va sanctifier votre amour par les grâces du sacrement de mariage. Cette grâce sacramentelle que vous allez recevoir, donc le jour de votre mariage, vous recevez en quelque sorte deux grâces. D'abord la grâce du sacrement. Pour chaque sacrement, il y a une grâce spéciale. Le sacrement de l'ordre donne la grâce sacramentelle de l'ordre. Le sacrement de mariage donne la grâce sacramentelle du mariage. Pourquoi? Parce que dans le cadre d'un mariage, vous allez avoir besoin de grâce spéciale dont moi je n'ai pas besoin. Par contre, en tant que prêtre, j'ai besoin de grâce spéciale pour être tout gentil et sûr avec tous mes paroissiens, etc. Les gens mariés vont avoir des grâces spéciales pour ne pas s'étrangler dans le mariage. Bon, du bon Dieu donne ces grâces. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces grâces vont vous aider à faire grandir cet amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le degré d'amour qu'ont deux époux au début du mariage doit grandir pendant tout le mariage. Prenons un exemple. Vous allez comprendre avec un exemple. C'est la même chose pour le sacrement de l'ordre. Lorsqu'un prêtre est ordonné prêtre, moi ça fait 40 ans que je suis prêtre, eh bien le degré d'amour pour le bon Dieu doit augmenter au cours du sacerdoce. J'ai un de mes amis prêtres qui fêtait ses 35 ans de mariage. Alors, il y a eu une grande cérémonie, il a fait une grande messe chantée, puis après il y avait c'était un grand pique-nique organisé par la paroisse en l'honneur des 35 ans des 105 ans du prêtre. Et puis, au cours des agapes, donc chacun est venu au micro pour faire sa petite félicitation au prêtre. Puis, il y a un petit garçon de 6 ans qui a demandé à venir au micro. Alors, le prêtre a accepté, a tendu le micro au petit gamin, 6 ans, et qui a posé la question suivante au prêtre. Monsieur l'abbé, est-ce que vous aimez aujourd'hui le bon Dieu plus qu'il y a 35 ans? 6 ans. J'ignore la réponse du prêtre, j'étais pas là moi. Mais c'est un peu la même question qu'on peut poser pour le mariage. Il faut que au bout de 10, 20, 30, 40 ans de mariage, si on vous posait la question, est-ce que vous aimez votre mari, est-ce que vous aimez votre épouse, plus que le jour de votre mariage, vous puissiez répondre oui. C'est pas évident. Parce que souvent, quand on demande aux gens, bah, monsieur l'abbé, oui, j'aime encore mon mari, j'aime encore mon épouse, mais vous comprenez, maintenant je connais tous ses défauts, et je me suis aperçu que, bah, qu'elle ne sait pas faire la cuisine, ou qu'il ne fait pas son boulot, ou je ne sais trop quoi. Et puis finalement, qu'est-ce qui se passe? Et dans bien des cas, le degré d'amour diminue. J'ai rencontré dans ma vie de prêtre deux fois, pas beaucoup, 45 ans, des gens très très âgés, mariés depuis 70 ans ou presque, qui étaient encore amoureux l'un de l'autre, et qui avaient plus d'amour après 70 ans de mariage que 70 ans auparavant. Oui. Et quand je vois des cas comme ça, c'est extrêmement émouvant pour un prêtre, parce que on se rend compte à ce moment-là comment le travail de la grâce sanctifiante a pu progresser dans cet homme, dans ces âmes, pour que justement le bon Dieu puisse augmenter par sa grâce sanctifiante dans ces âmes. À ce moment, le bon Dieu fait des miracles pour ces miracles, pour ces mariages-là. J'ai connu aux États-Unis aussi, dans une grosse paroisse du Minnesota, il y a eu une grande fête de famille qui était organisée. J'avais été invité à cette fête de famille, et c'était une arrière-grand-mère qui fêtait ses, je sais combien, 70 ans de mariage avec son mari, et ils avaient tous les deux à peu près 90 ans, et ils avaient, je crois que c'était 116 descendants dans la paroisse, dans la chapelle, la tradition. Elle avait ses enfants qui étaient tous là, plus ses petits-enfants, les arrière-petits-enfants, je crois même qu'il y avait des arrière-arrière-petits-enfants qui commençaient à prendre le bout de leur nez. 116 descendants. Vous voyez? C'était magnifique. C'est ça le christianisme. C'est ça la religion chrétienne. Donc il faut demander au bon Dieu, justement, en cette fête de l'institution, du renouvellement de l'institution, du mariage, on peut dire oui, il faut demander justement au bon Dieu qui nous aide à augmenter en nous constamment les grâces que nous avons reçues, même pour ceux qui ne sont pas mariés. Chacun, on a des grâces qui correspondent à notre devoir d'État. Bon, que ce soit dans la vie consacrée pour le prêtre, que ce soit dans la vie commune pour ceux qui sont en état de mariage ou ceux qui ne sont pas mariés, le bon Dieu donne des grâces, mais il exige de chacun d'entre nous une augmentation de l'amour que nous devons rendre au bon Dieu. Et il y a des saints qui ont dit qu'il y avait un purgatoire spécial pour les gens qui étaient restés en état de grâce pendant leur vie, qui n'avaient pas commis de péché mortel, mais qui n'avaient pas assez d'amour du bon Dieu. Donc il faut demander cette augmentation de la grâce. Hein? On dit que, je crois que Saint Bernard qui disait ça, que dans la vie spirituelle, celui qui n'avance pas, il recule. Il ne faut pas se dire, ah bon, je suis en état de grâce, je reste tranquillement à mon petit niveau et je cherche pas à progresser. Non. Il faut progresser, les saints progresser sans cesse, de passer de vie purgative à vie illuminative. En vie illuminative, en principe, il n'y a déjà plus de péché mortel. Il ne faut pas se contenter de la vie illuminative, parce qu'il faut encore essayer de monter, atteindre la vie mystique, ce qu'on appelle la vie unitive. Vous voyez? Et il faut demander cette grâce, qui est en fait compte une grâce, la grâce de la sagesse, du don de sagesse, la grâce de la fidélité. Il y a un autre point, je trouvais ça dans les Pères de l'Église. Les Pères de l'Église disent aussi que ce miracle de notre Seigneur Jésus-Christ, donc qui change l'eau en qui change l'eau en vin, est aussi un symbole de la transubstantiation. C'est ce qu'ils disent. Transubstantiation, c'est le changement pendant la Sainte Messe de la substance du vin qui devient la substance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ par la force du sang du sacrement, et puis par concomitance et l'enseignement de Saint Thomas, avec le sang, il y a aussi évidemment le corps, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a deux transubstantiations. Il y a transubstantiation du corps, c'est-à-dire la substance du pain qui par force du sacrement va devenir le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par concomitance, va se rajouter à ce corps, il y a aussi également, évidemment, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que notre Seigneur Jésus-Christ étant maintenant au ciel, il n'y a plus de séparation entre son corps, son sang, son âme et sa divinité. Et donc, il faut nous rappeler toutes ces choses, justement, lorsque nous assistons à la Sainte Messe. Assistant à cette messe, une assistance, un miracle extraordinaire. Il faut la foi pour l'accepter, parce que rien qui se voit, ce miracle extraordinaire de la transsubstantiation. Il y a eu de temps en temps, dans l'histoire de l'humanité, quelques miracles eucharistiques extraordinaires, justement là-dessus. C'est quelques miracles eucharistiques au cours des siècles où il y a eu vraiment aussi un changement des accidents. Vous savez que rien ne se voit parce que les accidents ne changent pas. Il y a l'apparence extérieure de l'hostie, l'apparence extérieure du liquide dans le calice ne change pas. La substance change, mais pas les accidents. Ça, c'est le point aussi très important à comprendre. Et le troisième point, en explication de ce sermon chez les pères, ils insistent beaucoup, évidemment, sur le rôle de notre Sainte Vierge Marie. Le rôle de notre Sainte Vierge Marie, là, on le voit, il s'est très discret, regardez la délicatesse de notre Sainte Vierge Marie, qui s'en mêle sans s'en mêler, avec une espèce de réserve, si vous voulez, tout en respectant parfaitement la volonté de son divin Fils. Donc, ils sont invités à ce mariage, et puis catastrophe et catastrophe, c'est une grande humiliation pour les mariés, plus de vin. La très Sainte Vierge Marie, il se tourne vers son fils qui dit simplement, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Alors, notre Seigneur va répondre de façon qui apparaît un peu sèche. Qu'y a-t-il entre vous et moi? Mais la Sainte Vierge dit rien. Elle n'insiste pas. Elle sait ce qu'il doit faire. Et notre Seigneur Jésus-Christ va faire un miracle. Et là, on voit très bien que la très Sainte Vierge Marie est l'unique créature capable de changer la volonté divine. C'est clair et net là. Notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas l'intention de faire ce miracle. Pourquoi? Ce n'était pas encore son heure. Bon, ce n'était pas encore son heure, c'est encore le tout début de la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est sous ses 3 années de vie publique, il n'avait pas l'intention de faire ce miracle. Mais la très Sainte Vierge Marie ne dit pas, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, obéissez à votre mère et changez l'eau en vin. Elle dit simplement, ils n'ont pas de vin. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, qui sait que sa mère souhaite que les mariés puissent sortir de cette confusion, ne plus avoir de vin, notre Seigneur Jésus-Christ va faire le miracle. Encore une fois, la très Sainte Vierge Marie est capable de changer la volonté. Et c'est le seul cas dans l'Évangile où les choses sont aussi claires que ça. La très Sainte Vierge Marie peut changer la volonté de son divin Fils parce qu'elle est sa mère. Et cela lui donne une prérogative en quelque sorte, une prérogative royale littéralement. Elle est reine puisqu'il est roi. Et en tant que reine, elle a le pouvoir de demander beaucoup de choses. D'où l'importance de cette dévotion mariale. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ, 3 ans plus tard, au pied de la croix, juste avant de mourir, les dernières choses qu'il va faire, alors qu'il est déjà crucifié, c'est de confier sa mère à l'Église. Quand il dit à Saint Jean, « Fils, voici votre mère », Saint Jean représente l'Église catholique, puisque Saint Jean est un jeune prêtre, il vient d'être ordonné prêtre quelques heures auparavant, consacré à évêque, et c'est lui qui va s'occuper de la très Sainte Vierge Marie jusqu'à la mort de la très Sainte Vierge Marie. Et c'est à cause de ce grand mystère, Notre-Dame, le plus grand titre de gloire, il ne faut pas oublier, il est là, le plus grand titre de gloire de la très Sainte Vierge Marie, c'est qu'elle est mère de Dieu, c'est sa maternité divine. Et parce qu'elle est mère de Dieu, elle va devoir participer à la passion de son fils. C'est pour cela que le vieillard Siméon avait dit, un glaive de douleur vous transpercera l'âme. Et donc elle va devoir participer à la passion de son divin. Et c'est pour cela, c'est l'enseignement de l'Église, qu'elle est co-rédemptrice du genre humain, même si niée actuellement par Bergoglio à Rome, à l'Église de Vatican II, elle est véritablement co-rédemptrice du genre humain et donc médiatrice de toutes les grâces. Et c'est pour cela qu'elle a ce pouvoir extraordinaire. Les gens parfois disent, mais elle prend un pouvoir qui n'est que divin. Mais Dieu donne ses pouvoirs à qui il veut. Il a bien donné le pouvoir de faire des miracles à tous les apôtres, y compris d'ailleurs à Judas. Et donc, il a parfaitement le pouvoir de transmettre une partie de son pouvoir de rédemption à la très Sainte Vierge Marie, en tant qu'elle est intermédiaire du pouvoir de rédemption. Et aussi, c'est très important pour nous, parce que cela doit nous aider à ne jamais nous décourager. On a parfois un peu l'impression que notre Seigneur Jésus-Christ est très loin de nous, surtout aujourd'hui, on a un peu l'impression, humainement parlant, qu'il nous a un peu oubliés, il faut avouer ce qu'il est, que on voudrait bien qu'il fasse quelque chose, qu'il nous envoie une nouvelle Sainte Jeanne d'Arc, un nouveau Saint-Pélisse. Bien, passons par la Très Sainte Vierge Marie. La Très Sainte Vierge Marie, c'est les saints qui disent réunissez tous les cœurs de mère en un seul cœur et vous aurez le cœur de la Très Sainte Vierge Marie. La Très Sainte Vierge Marie a un amour pour ses enfants qui est absolument incompréhensible. Et bien justement, si nous mettons en quelque sorte, comme on dit vulgairement, notre Seigneur, notre Sainte Vierge Marie dans notre poche, eh bien, elle pourra bien arranger les choses au jour de notre jugement. Elle pourra préparer les choses avant le jugement, avant notre mort, justement, pour nous aider à mourir en état de grâce et être prêt à rencontrer son divin Fils. Et donc, cette fête de Cana doit nous aider justement à comprendre pour nous l'importance d'avoir cette dévotion mariale. Et les saints ont dit que la dévotion mariale est un signe de salut. Et on peut dire le contraire, c'est que l'absence de dévotion mariale est un signe de damnation. Ça, j'aimerais pas être dans les chaussons de M. Bergoglio quand il a passé devant le bon Dieu, après tout ce qu'il a dit contre la Sainte Vierge. Et donc, demandons à la Très Sainte Vierge Marie toutes ces grâces qui ne viennent pas d'elle, mais qui passent par elle. Saint Bernard dit qu'elle est l'aqueduc des grâces. Que c'est qu'un aqueduc? Un aqueduc, c'est un canal qui amène l'eau depuis le réservoir, depuis la source, jusqu'à la ville. La Sainte Vierge Marie est aqueduc. Aqueduc des grâces, parce que les grâces du bon Dieu, qui viennent du Sacré-Cœur, c'est pas la Sainte Vierge qui fait les grâces, c'est le bon Dieu qui les donne, mais elles passent par la Sainte Vierge Marie, parce que le bon Dieu a voulu passer par sa mère pour nous donner toutes ces grâces. Il aurait pu passer directement. De la même façon que le bon Dieu pourrait nous pardonner nos péchés directement. Dans certains cas, il le fait. Il a voulu passer par l'absolution du prêtre. Voilà. Donc, il faut demander cette grâce. Et pour comprendre ces grâces, encore une fois, on retrouve toujours la même vertu. On retrouve toujours la même vertu. Cette vertu nécessaire pour comprendre toutes ces choses, la vertu d'humilité. La vertu d'humilité, je crois fermement. Toutes les vérités que vous nous avez enseignées, vous n'enseignez pas votre Église, parce que, étant Dieu, vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Je ne vois pas la transsubstantiation, je ne vois pas de signe physique de la transsubstantiation, mais je crois qu'après les paroles de la consécration, ce n'est plus du pain, ce n'est plus du vin, mais le corps, le sang, l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, que la Sainte Vierge Marie nous aide en ces temps difficiles, à conserver la foi et à conserver l'espoir du salut, justement en passant toujours par elle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.